création on air. Creation on air.
Bonsoir. Pour l'historien de l'art, Abby Warburg, les images modernes sont devenues des oiseaux. Elles volent d'un lieu à l'autre, de pays en pays, de continent en continent, partout où vivent les hommes. Oiseaux, images migrateurs. Légères et volages, elles sont constamment en mouvement. Dans cet esprit, depuis 2017, Pascal Cassagno, responsable des collections vidéo et nouveaux médias au Centre national des arts plastiques, CNAP, a imaginé les rendez-vous de Poissy. L'idée étant de proposer aux détenus des projections de films en présence le plus souvent de leur auteur pour établir des dialogues avec ses œuvres et faire advenir un film intérieur. Des images comme des oiseaux, je me souviens, Pascal Cassagno, Christine Robert, création On Air.
Savons les vies monotones, rien dans le cœur, rien dans la main, comme on ne dit plus rien à personne.
Des images comme des oiseaux.
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 Des maisons vides et fermées. Des portes lourdes et blindées. Que n'ouvriront plus jamais personne. Et comme il faut quand même qu'on vive, s'asseoir avec le même convive. C'est pas le festin qu'on croyait. Pas de fusée, pas de vin, pas de sorbet. Y'a plus qu'à tirer la nappe à soi. Continuer chacun pour soi.
Noël Pujol.
On s'est donné rendez-vous, c'était un jeudi après-midi, le 18 mai, sur le parvis de la Défense, devant la sculpture la Red Spider de Calder, 15 mètres de haut, 70 tonnes. Puis on a pris le RER pour aller à Poissy. Alors on rentre, on attend un petit peu, parfois un petit peu beaucoup. Et puis c'est comme un labyrinthe. Et puis on pousse une porte et puis là il y a une salle de projection qui est déjà toute prête. Il y a des sièges qui sont déjà disposés, des spectateurs qui sont déjà là. Je crois qu'on était à peu près une trentaine ce jour-là, des hommes. Je me suis présentée, j'ai dit qui j'étais, que j'avais réalisé le dossier 332, qui est un essai documentaire de 43 minutes en 2012, composé de longs plans séquences, de paysages qui ont été tournés dans les Pyrénées. Et on entend des documents, des lettres, des documents d'archives qui sont issus de mon dossier de la DAS et que je lis, que j'ai choisi et que je lis.
Tous ces papiers que vous trouvez devant moi, eh ben c'est une réflexion pour, je dirais, vraiment essayer de bien retransmettre cet art vidéo que je ne connaissais pas, puisque je suis, moi, très amoureux du cinéma. Et quand on m'a proposé de participer à une activité sur l'art vidéo, j'avais même de la peine à savoir que ça existait. Et donc, je suis venu, mais sur la pointe des pieds, en disant, est-ce que je vais comprendre, et qu'est-ce que c'est que l'art vidéo, puisque... pour moi, j'avais entendu parler du vidéoclip, de séance de vidéo, mais pas spécialement d'art vidéo.
Je leur ai donné des petites clés, des indices, avant de projeter le film. Je leur ai dit que c'était un film lent. Je leur ai dit aussi que ce qu'on voyait, ce qu'on entendait, ne se logeait pas directement dans ce qu'on entendait, qu'on comprenait des choses et qu'on n'en comprenait pas aussi, mais que c'était pas grave, qu'on pourrait en parler et que peut-être qu'il y avait des choses qu'on comprendrait beaucoup plus tard. On s'est retrouvés dans le noir. Tout le monde était très attentif. Tout le monde était concentré. Je me sentais bien.
C'était pour moi la première fois que je pénétrais à l'intérieur d'une centrale de longue peine. La seule chose que j'avais pu voir précédemment, c'était des images de l'espace clos, mais jamais la possibilité d'y pénétrer.
Alexandre Périgaud.
Dès le premier pas dans le SAS et la suite des portes et la rencontre avec les détenus, je suis resté dans un entre-deux et en même temps quelque chose qui m'a posé et qui continue à me poser les questions. J'ai beaucoup lu Foucault, hein, comme beaucoup de gens de ma génération, et je me suis souvenu de cette question qui est posée, c'est les longues peines, le cadre où ça s'établit, qui pose cette question du châtiment, de la punition. Et donc j'ai été voilà dans cette posture, je le dis assez difficile, hein, qui m'a profondément marqué. Et en même temps, la rencontre avec les détenus, c'était pour moi encore plus aigu puisque je leur ai présenté les questions qui m'animent depuis de nombreuses années, mais entre autres une sur laquelle je travaille vraiment actuellement, qui est cette exposition qui s'appelle « Mon nom et personne » et qui interroge la question de l'anonymat. En m'adressant à eux, je voyais qu'ils ont été très réceptifs parce que, évidemment, ils se sont travaillés au corps sur cette question, étant donné que moi-même, je les ai vus, je leur ai parlé, mais dans la rencontre, ils étaient quelque part personne.
Nous avons des vies monotones, rien dans le cœur, rien dans la main, comme on n'attend rien de personne. On n'a plus de réponse à rien. Nous avons des vies monotones, entourés d'hommes et de chiens. Ceux qui mangent dans notre main, ce sont ceux-là qu'on abandonne. Mais comme il faut quand même qu'on vive.
Reprenons le début de cette folle histoire. Par un mois de février de 2017, le CNAP, ou plutôt le Centre National des Arts Plastiques, vient proposer un atelier de lecture de films vidéo, avec la présence des artistes vidéastes sur Poissy. Je m'inscris donc à cette activité pour une totale découverte de l'art vidéo, issu de la collection nationale du Centre des Arts Plastiques, présentée et accompagnée à chaque séance par Pascal Cassagno, responsable des collections audiovisuelles. Venant à chaque projection des œuvres, pour nous aider à comprendre l'architecture de ce nouveau média, mettant en scène des univers étranges, des lieux désincarnés, sans oublier l'apparition de personnages parfois complètement déjantés, de portraits insistants sur les circonstances de l'individu, proposant à chaque film une analyse particulière et un échange avec l'artiste présent.
Je vais essayer. Donc déjà, j'ai adhéré au projet de CNAP en 2017, et c'est au bout d'une année que j'ai décidé de choisir ce film pour plusieurs raisons que je vais tenter de décrire. Alors, je vous dis franchement, je n'interviens pas en qualité de critique cinématographique. J'ai écrit ce texte uniquement avec le regard sensible d'un spectateur.
Saint-Girons, 24 janvier 1973. Madame Houlieu à Saint-Girons, à Madame le directeur de l'action sanitaire et sociale. Madame le directeur, j'ai l'honneur de vous informer que l'enfant Pujol Noël de Saint-Enac-d'Oust, la Soumère, né à la maternité de Saint-Girons le 18-12-1972, a été confié par nos soins après une liaison avec Mademoiselle Pêche, inspectrice de la DAS.
Ce qui m'a touché, c'est que, au-delà de son sujet éminemment bouleversant, antithèse révoltante dans l'ordre des choses, celle d'un enfant, d'un nourrisson retiré à ses parents par les services sociaux pour être confié à une famille de substitution, au-delà de son esthétique épurée, composée de 26 plans fixes, sans aucun mouvement de caméra, défilant les uns à la suite des autres, avec un rythme subtilement maîtrisé, jamais exagérément, jamais insuffisamment, variant, c'est là où c'est subtil, selon l'importance que chacun d'entre eux doit susciter pour que nous, on en retienne l'essentiel.
12 mars 1973. Bébé qui paraît en bonne santé. Poids 4,760 kg. Prend bien ses biberons. Lait SMA. Sel normal. Sommeil calme.
Il y a aussi, surtout, l'élégante pudeur et distance de la réalisatrice
19 juin 1973.
Qui lit en voix off ses correspondances échangées entre les services de la protection de l'enfance et les diverses administrations, dont on connaît que l'âpreté du ton et l'imperméable neutralité ne sont pas de vains mots.
26 novembre 1973.
Contenu, tout ça, dans un dossier, dit dossier 332,
poids 8 kg.
Et ce qui est subtil, encore une fois, c'est sans jamais sombrer dans le pathos,
tient debout en s'appuyant,
apportant encore plus de force,
dedans,
de justesse et d'émotion à son film.
27 août 1974, s'est développée, toujours souriante, 13 dents, soins affectueux. La gardienne a en pension 4 autres enfants placés par assistante du secteur.
Chaque séquence que j'ai trouvée était belle, subtilement dosée, pour éveiller le désir, à un moment donné, de s'accaparer les lieux, l'espace et suspendre le temps un moment. Il y a les contrastes entre les collines anides et pierreuses et les représentations de l'eau. Alors, on sait que ce sont des figurations paroxystiques de la vie. Une rivière, un lac, une cataracte, un petit cours invitent un voyage au tempo d'un adagio fait de références symboliques et métaphoriques. D'ailleurs, quand j'ai vu ce film la première fois, j'avais l'impression d'entendre l'adagio de Bizet. Enfin, une rivière longée d'une route est posée là, comme une piste de décollage conduisant vers une destination inévitable, celle de l'existence qui, au-delà de tout, doit se construire, continuer.
Une paire de chaussures, 7 mai 1987, chaussures André, 130 francs. Un ensemble, caleçon suite. 7 mai 1987.
Au travers de la froide mécanique des mots d'une vingtaine de notes et de courriers administratifs, rude et attendrissant à la fois, sans la moindre âcreté ou mélancolie, une liste dans la catégorie vêture, énoncée par sa réalisatrice de sa voix meuleuse et rassurante, comme un inventaire à la Prévert. Un pull Benetton, 110 francs.
Une jupe.
Un slip soutien-gorge, prix unique, 75 francs.
1987,
une jupe et un caleçon, 119 francs.
Ensemble,
deux t-shirts jean tonic, 140 francs.
22 août,
un chemisier féerique, 100 francs.
109 francs.
Chaussettes,
collant,
52 francs.
Septembre 1987,
chaussures Castel,
prix unique,
165 francs.
Francs 50.
Blouson en jean, 288 francs.
Jupe,
19 une robe mustine, 385 francs.
Circuit,
une robe tilleulement,
slip plus soutien-gorge,
273 francs.
Manteau. 28 octobre 1987.
Noël Pujol offre un récit autobiographique à la manière de Perec, dont toute la virtuosité s'exprime non dans l'histoire narrée, mais dans la manière de narrer l'histoire. La seule distinction, ses souvenirs, qu'elle a elle aussi adoptés, sont exposés par procuration. En dépit de la singularité de son enfance et des épreuves traversées, rien n'altérera sa détermination à planifier sa vie future. Finalement, ce film n'est-il pas une ode à la vie et à la quête du bonheur auquel nous sommes condamnés? L'ultime question demeure, comment combler un indicible vide?
Un pantalon, jeans tonic, 330 francs. Chaussures, San Marina, 245 francs. Chaussettes, Isba Sport, 52 francs. Pantalon jogging plus collant, typique, 70 francs. Veste rose, boutique Jalousie, 399 francs.
Que... Amelon. In the present.
Où est Noël?
It's where I'm still.
Voilà, hop, ça vous l'ai mis. Noël Pujol.
This is winter.
Nous avions là une séance plénière, c'est-à-dire que ça avait été ouverte, la séance a été ouverte pour toutes les personnes qui résident à Poissy. Et ça a été un passage bouleversant. Je connaissais très bien Saint-Giron, le lieu où elle a commencé à vivre. Et bon, ça nous a créé des liens. Et nous allons pouvoir réaliser avec elle, et bien sûr avec son accord, une interview d'une heure, tout à fait personnelle, sur son œuvre. Hein, parce que nous participons, nous, à une activité radio ici. Ah. Vraiment, je suis très content. Vous voyez que le fait de rencontrer des vidéastes nous permette presque de sortir de la vidéo, puisqu'on va passer directement à la radio.
Good. I'm alone.
Théâtre Simulacro, c'est un film où on est un peu pris au piège puisque on voit des comédiens, mais au bout d'un moment, il y a quelque chose qui cloche puisque c'est assez absurde. Et on voit des gens faire toutes sortes d'une gestuelle. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de dialogue, mais il y a une bande-son très très riche. Et on se rend compte aux deux tiers de ce petit film qu'en définitive, ces acteurs ne sont que des bruiteurs de son. Au-delà de la dimension ironique, la dimension, de cet envers du décor qui a à voir avec la question de la prison, je pense qu'elle a eu un écho. Une réception, en tout cas, de la part des détenus, parce que l'univers carcéral, ce ne sont pas que des images. Je pense que tout le monde a intégré, c'est que ça résonne en nous par cette dimension sonore. Et pour eux, il est évident que le moindre cliquetis, le moindre pas est quelque chose qu'on développe dans un lieu clos. On développe ce sens de l'écoute en étant aux aguets en permanence pour sa survie, tout simplement.
Bonjour. Allez, je vous en prie. c'était un moment qui était, je crois finalement que j'ai vécu de façon assez normale. C'est-à-dire que j'ai pas eu réellement la sensation d'être dans une prison. Je pense que j'ai eu la sensation qu'il y avait beaucoup de douceur autour de moi. Alors c'est vraiment étrange à dire, mais c'est comme ça. Voilà, une des premières choses qui m'a interpellé au moment de l'invitation, ça a été
Romain Cronenberg.
La façon que j'ai eu de me demander qu'est-ce que je pouvais adresser à des personnes qui vivaient dans une prison, et en fait me poser la question, ça m'a interpellé. C'est-à-dire que j'ai trouvé étrange de les distinguer d'un public plus conventionnel. On est parti sur l'idée de quelque chose de très musical, parce que c'était quelque chose qui m'était très familier et quelque chose que j'adresse naturellement aux gens sans distinction. Et là, en l'occurrence, avec Marcher puis disparaître, il s'agissait d'un film qui est un long chemin, qui dure une quarantaine de minutes, par un personnage, qui part d'une petite ville turque, dont il dévoile les usages, dont il dévoile les coutumes, des gens qui jouent dans un café, la ville qui naît avec les commerces, etc. Et qui petit à petit, en fait, marche le long des routes, et les routes qui deviennent de plus en plus petites, et qui finissent par ouvrir sur un lac salé, qui est une immensité presque abstraite, parce que finalement c'est du sel, c'est blanc, c'est un point de repère pour les personnes qui veulent calibrer les satellites, je crois, puisque c'est une des zones les plus blanches du globe. Le personnage finit par se perdre là. Et la musique qui suit un chemin qui est également linéaire finalement, puisque ça commence dans les bruitages de la nature, dans les bruitages de la ville, dans les bruitages des routes, et que peu à peu, en fait, les bruitages deviennent plus musicaux, le vent devient matière sonore, et finalement, la matière sonore devient musique. Des arpèges très très simples, aussi simples que le lac finalement, et qui petit à petit se complexifient. Il y a des dissonances qui apparaissent, il y a des instruments qui ne sont pas de la guitare électrique qui apparaissent, et évidemment à Poissy, ces instruments de musique, ils étaient préenregistrés, puisque je ne suis pas arrivé avec un orchestre, mais la guitare, elle, était jouée live. C'est ce moment de musique qui apparaît à la fin du film que j'ai réinterprété pour les spectateurs. Il n'y avait pas réellement de scène, donc on ne peut pas vraiment dire que j'étais en représentation, j'étais vraiment dans le même espace qu'eux, assis sur le même siège qu'eux, à la même hauteur qu'eux, et dans une relation qui était très, très simple. Et donc c'était intéressant, d'autant que les 30 premières minutes du film, bah finalement je regardais les gens devant moi regarder mon film.
Pour moi c'était la première fois que je venais présenter un de mes films dans un espace comme celui-là. Et c'est vrai que l'arrivée là-bas a été avant que je rencontre ce détenu, et qui a été vraiment la rencontre.
Marie Lozier.
Ça a été un chemin assez particulier pour moi, en tout cas d'un ressenti. C'est que j'ai trouvé ça très désuet, l'arrivée, enfin le bâtiment, le passage des portes jusqu'au jardin, où il y avait ce magnifique jardin avec un détenu qui m'a offert une fleur, avant de rentrer dans une autre partie dans laquelle était la salle de projection.
Quand j'ai vu le film de Marie Lozier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis le DVD que j'ai écrit en même temps le fil de mes pensées.
Mmh.
début, je me demande si c'est du bruit ou du son, si ce qu'il fait a du sens, et si oui, lequel. Qu'est-ce qu'il veut me montrer? La musique m'emballe, m'entraîne, je vois que tout fait sens, si on veut entendre la musicalité, si on veut voir dans le quotidien une œuvre, n'est plus dissociée. Il n'y a pas de mise en scène, si c'est sincère, il n'y a pas de mise en scène. Absorbé, fusion par absorption, une forme d'amour, le cannibalisme mental. Il faut du hasard. Rencontre anodine, savoir s'émerveiller, savoir s'étonner, savoir aimer, savoir vouloir, musique, saccader, rythmer, l'amitié. L'amour, est-ce de l'amitié poussée à l'extrême?
C'est un personnage qui se dédouble par amour aussi. C'est une rencontre amoureuse entre Genesis Peerage et sa femme, Lady J, et une période de 20 ans d'amour passionnel qui a mélangé l'art, l'amour et la vie de tous les jours et le processus de création où le corps de l'une s'est transformé vers le corps de l'autre pour se ressembler.
Well, you know how it is. You fall madly in love with somebody, hopefully, at least once in your life. And there's this moment where you just want to consume each other. You just say, oh God, I just want to eat you up.
Ça, c'est au début, quand on le voit, une drôle de position, en train de répéter des choses, en train de faire du son. Et puis, quand il parle de sa rencontre avec les DJ.
We felt we wanted to pursue that, not just talk about it, but live it.
Après, j'ai mis le minutage, j'ai juste commencé à partir de ce moment-là.
I always dress up for housework. Sometimes when I'm really tired and there's lots to do, like
11 minutes, il dit, c'est en anglais, j'ai traduit, je m'habille toujours pour travailler à la maison, et le son qu'il met, ça m'évoquait d'autres choses. J'avais évolué un moment avec une tribu techno, et c'est vrai que quand vous êtes dans des ambiances créatrices, pour vous, tout le temps, vous créez, alors que pour les gens, c'est peut-être que le week-end ou lorsqu'ils sortent, qu'ils voient quelque chose d'exceptionnel, alors que vous vivez dedans. Là, je trouvais ça très fort de dire que lui, il s'habille juste pour aller à la cuisine. Et je trouvais ça génial, je trouvais ça marrant, j'adore. Message, je n'ai pas besoin de vous pour faire la fête, mon quotidien est déjà extravagant, mon quotidien peut être extravagant pour vous, mon quotidien pour moi est normal, je vis comme cela.
Hi sweetie pie.
Hey boy.
I'm cooking for you.
Let me barbecue for you on the main grill.
Ah, we found a use for the archive. Hide and seek.
We can play hide and seek with it.
I was trying to think, what can we do with all this shit? That's it. Hide and seek.
À 15 minutes, on le voit en train de jouer à cache-cache, ce qui doit être une partie sous bassement où il y a des archives.
Industrial music, which is pretty remarkable.
La maison est un musée dans lequel je peux jouer à cache-cache. Penser à rédiger une théorie de la transmission d'un savoir de l'underground vers le mainstream.
Can you believe it? And there was Cabaret Voltaire and Throbbing Gristle, that was it. And now look at it. September 3rd, 1975, London Fields Park.
Ça a été le début avec l'inventeur de la musique industrielle. Ça a été le début avec un groupe mythique, Throbbing Gristle, dans la fin des années 60, en Angleterre, qui ensuite est devenu un autre groupe par la suite, après avoir quitté l'Angleterre, étant poursuivi par la justice, avec un autre groupe qui s'appelle Psychic TV. Et Genesis s'est réfugié aux États-Unis, il vit encore. Voilà. Oh!
tout au long de ce film. Ce qui m'est apparu, c'est qu'alors que, bon, à ses débuts, c'était vraiment quelque chose d'assez confidentiel. Et c'est que quand je me dis que ces artistes, c'est grâce à eux qu'il y a des films comme Matrix, et que Matrix peut sembler normal, alors que bon, Matrix, c'est vraiment le film mainstream, et tout plein de choses, le fait que Neo, quand il devient l'élu, porte une robe, la façon dont il habille Trinity, le fait maintenant que les frères Wachowski maintenant sont les sœurs Wachowski, et tout ça qu'il y avait en germe, et je trouvais ça intéressant. Bon, je suis sûr que d'autres chercheurs ont dû s'en occuper, mais de voir comment des gens très confidentiels peuvent devenir comme ça après avoir une œuvre qui finalement devient grand public. Alors bon, il y a plein de groupes, Skinny Puppy, Ministry, Nanny Schnez pour des versions plus commerciales, et que chacun quelque part fait une œuvre de transmission de contagion.
That you didn't expect.
À 19 minutes, il y a un concert. Alors, c'est dans les tout débuts. Il y a quelque chose de martial, quelque chose d'ancestral, le sens où la musique, c'est vraiment ce qui permet à un groupe de gens de faire corps, et quelque chose qui nous fait un. Et la créativité, c'est savoir se donner les moyens. Et il y a la référence à Monsieur Burroughs, je ne sais pas si je prononce bien, la référence, celui qui donna la méthode Cut-Up.
Everyone is telling the truth all of the time. Everyone is telling the truth all of the time. Well, it's just that times change.
À 25 minutes, il y a disparition du temps. Ensuite, il y a des photos, changement, etc. Et je pense à Genesis, qui en grec apporte l'idée de croissance, de cycle. Et Genesis, en tant que devenir un autre, ceci et moi, cela et moi, ne plus avoir l'idée de ce que l'on est. À 33 minutes, ils évoquent le mariage, et à 34 minutes, ils évoquent l'opération. Alors, ils partent du principe que, bon, ils pourraient faire un enfant. Qu'un enfant, c'est quoi? C'est prendre un petit bout de soi, construire un être à deux. Et là, ils veulent construire, ils font presque l'opération pas inverse, vu que à deux êtres, ils veulent en construire un. Et au lieu de produire la fusion par la procréation, ils en passent par l'opération, l'un voulant ressembler à l'autre, l'autre voulant ressembler à l'un, une sorte de mixte, métamorphose, défigurée, reconfigurée, deux anges. Il cite Lady Jane et elle voulait qu'on se rappelle d'elle comme la plus grande amante de tous les temps. Il y a un pressentiment et il y a cette idée de faire tout comme si c'était le dernier, de tout faire comme si c'était le premier jour. Et il veut faire une petite sortie toute simple, comme ils le faisaient à leur premier jour. Et il s'endort, et quand il se réveille, il la trouve allongée. Et il dit son dernier souffle dans ma bouche, et il dit « Kiss me, kiss me, kiss me ».
Kiss me. Kiss me. Kiss me. réponse aux deux visites qu'on a fait à la centrale de Poissy.
Éric Baudelaire.
Ce dont je me souviens le plus, c'est l'intimité des discussions qui ont eu lieu après avoir montré les films dans une salle, une petite salle dans laquelle un homme est en train d'installer un projecteur, des petites enceintes d'ordinateur. Un tout petit projecteur, mais quand même un projecteur de bureau pour faire des PowerPoint. Et il est en train d'installer tout ça sur un espèce de petit meuble à roulettes. Il met les chaises en cercle. Et je crois que le premier sentiment que j'ai eu, c'était comme une espèce de petite tristesse en voyant les images, les tests d'images et de sons. Parce que je me disais, les conditions de projection sont quand même pas vraiment très bonne. La salle est très lumineuse, donc l'image est très délavée, l'acoustique est très mauvaise. Moi, je ne m'attendais pas à une salle de cinéma extraordinaire, mais je pense qu'on peut assez facilement faire un petit peu mieux que ça, c'est-à-dire peut-être juste mettre des rideaux, avoir un projecteur un petit peu plus récent, et puis là, tout d'un coup, ça rentrerait on serait dans quelque chose d'un petit peu plus agréable à regarder. Donc d'abord, je me suis dit, bon, les conditions de projection sont difficiles et c'est dommage. Et en fait, dès que la projection a commencé, tout ça s'est immédiatement a disparu. Enfin, cette préoccupation-là a complètement disparu, parce que même sur cette toute petite micro-enceinte et avec ce tout petit projecteur un peu faiblard, j'y avais une salle qui était absolument attentive. Une quinzaine ou une vingtaine d'hommes qui étaient absolument captivés par le film, lui consacrant une attention absolue. Et cette attention, je me suis souvenu avoir pensé que je ne l'avais pas ressentie depuis très longtemps. En tout cas, certainement pas quand on visite une école d'art ou quand on montre un film, même dans un festival. Il est très 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 rare que la salle soit aussi captive de l'écran.
Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. La scène qui le troubla par sa violence, et dont il ne devait comprendre que beaucoup plus tard la signification, eut lieu sur la grande jetée d'Orly, quelques années avant le début de la Troisième Guerre mondiale.
Départ à destination de Rome. Vol Alitalia 333. Embarquement...
À Orly, le dimanche, les parents mènent leurs enfants voir les avions en partance. De ce dimanche, l'enfant dont nous racontons l'histoire devait revoir longtemps le soleil fixe, le décor planté au bout de la jetée et un visage de femme. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître à leur cicatrice.
J'avais choisi de montrer un film de Chris Marker qui s'appelle La Jetée. J'avais choisi ce film parce que c'est un format assez court, donc ça permettait de montrer le film et d'avoir le temps de discuter après. Et puis aussi parce que c'est un film fait de manière très simple, c'est des photographies qui, mises bout à bout avec une voix off, constituent un récit, un film. Et parce que moi-même, j'ai été photographe avant d'être cinéaste et que ce film avait été important pour moi, c'était quand même un film qui marquait la transition entre la photographie et le cinéma. Et donc je racontais ça lors de la discussion qui a suivi la projection, et un des détenus m'a tout de suite corrigé, m'a dit « Attention, il n'y a pas que des photographies dans ce film. En réalité, il y a un plan en mouvement, il y a un plan de cinéma. » Et en effet, il avait absolument raison, il y a inséré au milieu du film, il y a ce plan, je crois on voit un battement d'œil où... c'est comme une espèce de petit clin d'œil justement de Chris Marker au cinéma à l'intérieur de cette série de plans qui sont absolument fixes. Et dans la discussion qui avait suivi, un des détenus a pris la parole et a, était très songeur et il m'a dit « Forcément, vous nous avez montré un film aujourd'hui sur un homme qui est prisonnier du temps. » Et pour moi qui purge une peine perpétuelle, cette question d'être prisonnier du temps me fait beaucoup réfléchir. Elle me touche énormément.
Au terme de l'expérience, il comprit qu'on ne s'évadait pas du temps et que cet instant qui lui avait été donné de voir enfant et qui n'avait pas cessé de l'obséder, c'était celui de sa propre mort.
Grand amateur de cinéma, seuls deux, trois noms de vidéastes me venaient à l'esprit à l'époque. Pipi Lotti, notre Suissesse, Chris Marker ou Doug Aitken. Mais me voilà déjà plongé dans les 10 premières séances dans l'image vidéo, avec Empire de Bernard Joitzen, L'an 8 de Martin Le Chevalier, La Jetée de Chris Marker, présenté par Éric Baudelaire, Alexandre Périgot et ses courts-métrages, Alain de Clercq pour Mike and the Headquarters, et enfin Marie Lozier pour son émouvant et émouvante ballade de Of Genesis et Lady Jane. C'est incroyable. Mais restez bien à l'écoute. Ce n'est qu'un début de mon initiation à l'art vidéo, car voici l'hypothèse du Mokele de Marie Voynier, présente lors de la projection.
On y va, le grand.
L'hypothèse du Mokele Membe, c'est un film que j'ai tourné dans la forêt tropicale du sud-est camerounais. J'y ai filmé un Français, Michel Ballot, qui est à la recherche d'un animal fabuleux, le Mokele Membe.
Marie Voynier.
Et donc Michel Ballot, depuis dizaines d'années, parcourt les rivières et la jungle camerounaise à la recherche de cet animal, dont les populations locales, essentiellement des Bakas, ont été témoins de quelques apparitions. Et il recueille de village en village des témoignages, des traces de l'existence potentielle de cet animal.
C'est dur, hein, cette forêt, Papou. Hein.
Il est arrivé là où je connais qu'il peut être là. Est-ce que je connais ici?
Mais le Mokele, on me dit tout le temps qu'il peut se... qu'il a des zones vers la deuxième chute là-bas, là-haut.
La deuxième chute ou bien la première chute qui est là-bas, en bas là-bas, là, après les autres, il y a une chute là.
Mais je sais, j'y suis allé l'année dernière.
Oui.
Il y a un de tes collègues pêcheurs qui avait vu la corne de l'animal.
Oui. Il est là, en bas des cailloux, là. Même un père, là, il a mis le filet, il est parti trouver qu'il n'y avait pas ces filets. Il a pris tout. Tout emballé.
Crois que c'est le Mokele, ça?
Ça, c'est le Mokele bébé, parce que quel animal peut emballer tous les filets comme ça, là.
J'ai l'impression, si tu veux, que cet animal qui vit souvent sous l'eau,
oui.
Quand il sort, il doit faire beaucoup de projections d'eau.
Ça, tu vois l'eau, on dirait que c'était le bateau qui venait même. On dirait que c'était le bateau qui venait, mais quand il fait souvent ici, là, tu comprends le bac, là, on dirait qu'il va sortir maintenant. Comme vous avez aussi les appareils, hein, les appareils peuvent bien lui voir.
Mais
pour lui voir comme ça, comme je vous vois là, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile.
C'est un long métrage, dure 1h18. Et je suis venue le présenter. J'ai été assez surprise de la grande concentration et l'attention portée au film. Et cette tension attentive s'est poursuivie après dans la discussion. Il n'y a aucune perte de temps pour avoir aussi souvent présenté ce film dans d'autres contextes. Il y a toujours une timidité de la première question, une réticence à la prise de parole en général des spectateurs. Mais là, c'était pas du tout le cas. Les questions immédiatement fusent, des questions très précises, des questions très honnêtes aussi, très directes. Il y a plusieurs niveaux d'approche. Donc, pour certains, c'était par rapport au pays, le Cameroun, ou au continent, l'Afrique. Pour d'autres, c'était plus par rapport à la personne, Michel Ballot, qui recherche l'animal. Ou pour d'autres, c'était l'animal. Donc, chacun aussi avait sa lecture du film et voulait prendre la parole. Le débat s'est développé entre eux. Il y avait plusieurs positions dans le public, surtout à la fin. Il y avait un rythme dans les échanges, une tension très positive qui est montée. Et plutôt que répondre aux questions du public, comme j'ai l'habitude de le faire, j'ai plutôt animé un débat sur cette question de la croyance, cette question des témoignages, de la vérité, et puis la notion d'existence même du mot qu'elle est même.
Tous les pécheurs me disent un seul mot, qu'il est là. Ça a son endroit et c'est profond.
Celle qui m'ont le plus plu, c'est Ismaël Barry, Le Foyer. C'était vraiment le fait de mettre un voile sur une caméra et d'imager tout ce que l'on voit pas. C'est que l'imaginaire, en fait. C'est, voilà, ça, on réfléchit parce qu'on voit pas d'image. Il n'y a pas une image du film. C'est une feuille blanche tout le long avec des lumières, des ombres. Mais c'est filmé, mais avec une feuille blanche devant. Donc on ne voit pas de personnages, on n'entend que les voix. On devine les mouvements, on voit des ombres passer, parce qu'il a filmé, hein, il a filmé un petit voyage, c'est en Tunisie, mais je ne sais plus exactement l'endroit. Mais concrètement, il fallait y penser. Il fallait y penser parce que ça donne vraiment une autre perception d'une vidéo, quoi. Parce qu'une vidéo, on s'attend à des images, en plus maintenant l'ère numérique avec tous les effets spéciaux... On ne sait même plus ce qui est vraiment le réel, quoi. Et là, bah, une feuille blanche, une simple feuille blanche devant une caméra amène, justement, on ne peut que imaginer, on entend les conversations, c'est ce que j'ai vraiment trouvé intéressant. Il avait fait une autre œuvre avec de l'encre qui fait couler le long de sa main, et c'était très réfléchi, très... Enfin, c'est les deux œuvres que j'ai vraiment le plus... Les autres m'ont plu parce qu'ils m'ont plu par la rencontre de l'artiste. Et ayant fait partie d'un petit groupe vidéo il y a quelques années, je connais le travail qui se passe en amont. Je sais ce que c'est de créer une œuvre. Je n'ai pas eu l'occasion d'en finaliser une, mais j'ai travaillé beaucoup dessus. J'arrive, même s'il n'y a pas de message, ça reste quand même une œuvre artistique. Donc tout court-métrage est une œuvre artistique. Que je le comprenne ou je le comprenne pas, c'est un peu comme quand on est devant une peinture. On comprend pas toujours ce qu'on voit, quoi.
Je me réveille. Je vais dans la salle de bain. Je me remets un peu au lit. Je traîne.
Valérie Mregen.
Je range.
Un commentaire de page du catalogue Manu France.
Je profite de la chambre. Je me détends. Je me prépare. Je commence à cuisiner. J'ai un peu de bricolage à faire. J'ai de la couture.
Et c'était quelque chose vraiment d'artistiquement assez sympathique.
Je retourne à la cuisine.
Puisqu'elle prenait simplement une photo et elle faisait un commentaire. C'est le jour de l'apéritif, c'est l'heure du téléphone, c'est l'heure du bain.
Je me relaxe.
C'est l'heure de ceci quand on la voyait, ou dans la salle de bain.
Je range les placards.
Ou dans le salon, ou en train de passer l'aspirateur, c'était l'heure de faire le ménage.
Je vais me recoiffer.
Et j'ai trouvé ça assez...
J'écoute un disque.
Assez puissant parce que il faut avoir des idées.
J'écoute un autre disque.
Et c'est là qu'on se rend compte que ces vidéastes, des fois... nous présente des œuvres qui sont...
Je sors les assiettes.
Bah, je dirais intemporelles et qui sont géniales.
J'attends qu'il téléphone.
On peut dire le mot génial parce que c'est très court.
Je prépare plusieurs plats.
Et puis il faut avoir l'idée de faire ça.
Je dresse le couvert. J'attends. J'ai juste le temps de faire un sauna. Je dois leur redonner l'adresse.
Que sera votre vie quand...
Je m'occupe en attendant.
Le silence entre les sons. Se remplira de cris. Que sera votre vie quand une heure durera de 7 à 8 minutes?
J'ai pas encore eu le temps de visionner tous les films, mais de ceux qu'on a visionnés, il y a quelques-uns qui m'ont bien plu. Il y en a un dont... le titre qui me revient en tête, mais on a un rouleau qui se déroule tout doucement, et un rouleau de papier, ça se déroule tout doucement, et enfin, on peut y mettre plein de choses, quoi. On peut y mettre le temps, enfin quelque chose qui va se développer comme ça, et l'idée est très simple, mais ça m'a intéressé.
Que sera votre vie?
Ayant participé à toutes les étapes de réalisation, de cours et de long métrage, j'ai toujours été attaché à savoir à qui l'œuvre allait s'adresser, puis à son côté technique. En regardant ces œuvres vidéo, je me suis souvent dit qu'il me manquait la grille de lecture. Certaines d'entre elles m'apparurent d'une naïveté rafraîchissante, d'autres m'ont laissé égaré. La liberté prise dans ces actes créatifs vont au-delà de la qualité purement technique ou narrative. Il n'est pas nécessaire de toujours y chercher un sens, un début qui soit différent de la fin. Il m'a fallu m'extraire de mes habitudes, prendre parfois beaucoup de recul pour traduire la créativité émanante de la richesse de ce fond. L'expérimentation est une forme d'art, la folie peut l'être aussi. Tout dépend du point de vue. L'occasion nous a été donnée de rencontrer ces artistes contemporains. Cela aura débridé mon regard et ouvert une certaine dose de folie dans ma créativité.
Liquide, l'eau solide, la terre, feu.
Ça nous ouvre vraiment à l'imagination et même à une création intérieure, quoi, en fait.
Que sera votre vie?
Qu'est-ce que l'art numérique? Comment peut-on différencier une vidéo artistique à celle d'un amateur, à une heure où tout est numérique? Que le format vidéo est devenu quelque chose de commun, où l'on filme tout et n'importe quoi, où l'on inonde la toile de courts, de moyens métrages avec un intérêt ou sans, selon sa perception. Qu'est-ce que l'art numérique? Il y a encore, cela m'était inconnu. Pourtant, l'ère numérique bondissante de ces 30 dernières années fait de ce format un art à part entière, de manière visible ou non. Par des artistes ou non, collectives, interactives, en perpétuel mouvement, supprimant d'emblée la possibilité d'une compréhension commune. L'année passée à visionner ces œuvres et à rencontrer les artistes qui les ont créées est particulièrement intéressante, parce qu'elle pose simultanément la question de la critique comme toute émergence de nouveaux objets ou d'œuvres artistiques, mais n'est-il pas cela qu'on appelle l'art ?
c'est fini. Je venais de basculer dans l'art vidéo, échangeant nos impressions avec les vidéastes, partageant leurs émotions ressenties avec les spectateurs, ainsi que leurs projets futurs dans la planète vidéo. Pour moi, l'art vidéo nous fait établir le contact de l'œuvre avec le monde extérieur en reprenant l'idée de Marcel Duchamp. C'est finalement le regardeur qui fait le tableau.
Il y a une route qui court la tête entre les mains. Y'a une route. Tu sais, y'a pendant des années des gens qui ont vécu le dos tourné sur une route abandonnée avec des marronniers sauvages qui jettent leurs fruits plein le paysage. Y'a une route comme une blessure envers l'os de ton visage.
Des images comme des oiseaux. Avec Antoine, Christophe, Giovanni, Pierre, Victor et Éric Baudelaire, Marie Lozier, Romain Cronenberg, Alexandre Périgot, Noël Pujol, Marie Voynier. Prise de son, Laurent Lucas, François Rivalin, Stéphane Desmond. Mixage, Claire Levasseur. Attaché de production, Chouchane Gergaillan. Coordination, Irène Omelianenko. Musique, Rodolphe Burger, Gérard Mancé. Avec la collaboration et le soutien d'Isabelle Lorenz, direction de la centrale de Poissy, Claire Brasilier, coordinatrice culturelle, service pénitentiaire d'insertion et de probation, maison centrale de Poissy, Marie Dormieux, responsable de la communication, direction interrégionale des services pénitentiaires, Charlotte Grondin, direction interrégionale des services pénitentiaires, Colombe Babinet, département de la communication à la direction de l'administration pénitentiaire. Que tous et toutes soient remerciés ici pour leur confiance et leur engagement, tout particulièrement Irène Omelianenko pour son soutien.
C'est dur et ça tient. Y'a une route.
Un projet de Pascal Cassagno, réalisé par Christine Robert.
Y'a une route. Y'a une route.
Cette émission est disponible en podcast un an et réécoute éternelle sur le site de France Culture. Demain, Frédéric Matevé et Angélique Thibault nous conduiront dans un jardin suspendu sur le flanc nord du Pilat.